8h40 à Paris.
Accent d'Europe, Catherine Roland.
Something to believe in. You promised me a feeling.
Bonjour à tous et bienvenue. Elle a été unie à l'Angleterre depuis plus de 300 ans. L'Écosse s'apprête donc à tenir jeudi un référendum sur son avenir constitutionnel. Défense, pension, monnaie, ressources naturelles et même frontières, tout a été débattu maintes fois. Alors pour l'instant, Anglais et Écossais traversent cette frontière sans même s'en rendre compte. Mais dans la petite ville de Berwick-upon-Tweed, ballottée au fil de l'histoire entre les deux nations, on s'inquiète. Marie Billon s'y est rendue.
Sur la rue principale de Berwick-upon-Tweed, il suffit de fermer les yeux et d'écouter les passants pour se croire en Écosse. Ici, on roule les R comme à Édimbourg et quand on ouvre les yeux, le charme n'est pas rompu. Berwick a ses maisons en pierre grise qui font penser aux immeubles de la capitale écossaise.
Berwick a été écossaise, puis anglaise, plusieurs fois dans l'histoire, 13 fois en tout. Beaucoup de guerres ont été menées pour le contrôle de Berwick, et elles opposaient toute l'Angleterre et l'Écosse. Mais la ville est aujourd'hui anglaise depuis plus de 500 ans. Cela dit, on est tellement près de la frontière, beaucoup ont de la famille ou des amis en Écosse.
Phil Johnson est le rédacteur en chef d'un hebdomadaire local à deux têtes, le Berwick Advisor et le Berwickshire News. Le premier s'adresse aux Anglais, le second aux Écossais.
Il y a bien des gens qui achètent les deux, mais en fait, il y a beaucoup d'articles qui sont présents dans les deux éditions. Cela dit, il y a aussi beaucoup de différences. En Écosse, le système de santé et de justice n'est pas le même, ce qui signifie qu'on ne couvre pas la même actualité.
Ces deux journaux jumeaux reflètent le cas particulier que représente Berwick. La ville a parfois le droit de choisir si elle préfère aller du côté anglais ou du côté écossais.
Notre équipe de foot, les Berwick Rangers, joue dans la Ligue écossaise et notre équipe de rugby fait partie de l'Union anglaise et de l'Union écossaise. C'est vraiment une question pratique. C'est juste plus simple pour les joueurs de se déplacer vers l'Écosse parce que c'est plus proche.
Les commerces peuvent aussi choisir s'ils veulent suivre les jours fériés anglais ou écossais. La relation que cette petite ville anglaise entretient avec l'Écosse peut être qualifiée d'intime certainement, mais elle est quand même aussi un peu compliquée.
Dans le sud de l'Écosse, chaque année, les hommes montent à cheval et viennent inspecter la frontière. Ils viennent vérifier que les Anglais ne tentent pas de les envahir. Nous avons le même genre de tradition qu'on appelle le Riding of the Bounce, où on vérifie que ce ne sont pas les Écossais qui sont en train de nous envahir.
Voilà pour le folklore, parce qu'en fait, la ville regarde parfois vers le nord avec envie. Isabelle Hunter est la maire de la ville.
La plupart des gens ici se sentent plus proches d'Édimbourg que de Londres, et pas seulement géographiquement. À Westminster, les politiciens ne comprennent pas à quel point c'est difficile de vivre si près de l'Écosse. Par exemple, en Angleterre, on doit payer des frais d'université, c'est gratuit en Écosse. Pareil pour les médicaments, c'est gratuit là-bas. Ici, c'est au moins l'équivalent de 10 euros par médicament. Et les maisons de retraite sont soit gratuites, soit vraiment pas chères en Écosse. On se sent comme des enfants dans un magasin de bonbons à qui on a interdit de toucher à quoi que ce soit.
Mais l'élu ne donne pas non plus le bon Dieu sans confession aux Écossais. Il risque d'être à leur tour la cause de nouveaux maux pour la petite ville qui vit de ses commerces et du tourisme.
Si l'Écosse ne garde pas la livre sterling, comme beaucoup d'habitants de Berwick travaillent en Écosse et que beaucoup d'Écossais ont un emploi ici, va-t-on devoir payer les salaires en prenant en compte les taux de change? Les magasins vont-ils devoir accepter deux monnaies? Moi, j'ai une entreprise de transport et on traverse la frontière chaque jour. Je n'ai jamais demandé à mes chauffeurs s'ils ont un passeport. Comment faire s'ils en ont pas? Je dois les renvoyer?
Cette histoire de passeport et de contrôle aux frontières a commencé comme une blague en fait à Berwick. Mais maintenant que l'heure du vote approche, il commence effectivement à vraiment se faire du souci.
Ça me fait un peu peur cette histoire de contrôle aux frontières. Est-ce que j'aurai besoin de mon passeport pour aller en Écosse juste en haut de la rue quand je vais voir mes amis? J'aime aller manger une glace à Eyemouth en Écosse. Ça risque d'être l'expédition s'ils deviennent indépendants.
La moitié de ma famille vit du côté sud de la frontière et l'autre non. Qu'est-ce que je vais faire moi?
Dan works in
Mon mari travaille en Écosse, mais on vit en Angleterre. Je ne sais pas à quel point ça risque de devenir compliqué. On risque de devoir déménager en Écosse, mais on n'en a pas envie.
Alex Salmond, le premier ministre écossais, a déjà fait un clin d'œil à Berwick. Il a promis de voir ce qu'il pourrait faire pour eux, peut-être les faire revenir en Écosse, et certains ne sont pas contre.
Oui, pourquoi pas? Ils ont un meilleur système de santé, ils sont plus humains et ils ont des valeurs qui me plaisent.
En fait, cela fait quelque temps que Berwick regarde vers le nord avec nostalgie. C'est ce que rappelle Phil Johnson.
Il y a eu un sondage de fait il y a pas mal d'années. On demandait, pensez-vous que Berwick s'en sortirait mieux si elle redevenait écossaise? La réponse a été oui. Mais si la question avait été, voudriez-vous que Berwick redevienne écossaise? On n'aurait pas les mêmes résultats. Pour l'instant, les gens n'ont pas farouchement envie de redevenir écossais. Mais tout pourrait changer selon les résultats.
Berwick doit maintenant prendre son mal en patience, parce que comme tous ceux qui vivent en dehors de l'Écosse, ils n'auront pas leur mot à dire. Ici, on se réunira peut-être dans la salle des fêtes, jeudi soir, pour suivre les résultats, et puis pour se consoler, ou alors se réjouir ensemble. Vote for we, lad, that vote for we, hey, yeah.
Bonjour Edmino.
Bonjour Catherine.
Alors, on en parlait à l'instant, les Écossais votent donc demain. Parmi ceux qui devront répondre yes or no à la question « Souhaitez-vous que l'Écosse soit un pays indépendant ?» se trouvent donc les jeunes mineurs de 16 et 17 ans. C'est une première et c'est assez rare en Europe pour être signalé. Les jeunes Écossais peuvent-ils faire basculer le vote de demain? C'est la question qu'on peut se poser avec vous aujourd'hui. Mais d'abord, combien sont-ils?
Alors, ils sont environ 110 000 jeunes votants inscrits sur un total de 120 000 mineurs écossais. C'est âgé de 16 et 17 ans, ce qui veut dire que l'idée de voter lors du référendum demain sur l'indépendance a motivé près de 90% de cette classe d'âge à aller s'inscrire. Pas mal pour une génération que l'on désigne souvent comme apolitique. C'est le signe en tout cas que la question les intéresse, qu'ils ont saisi l'opportunité donnée l'année dernière par le gouvernement. Après tout, c'est aussi leur futur qui est en jeu.
Alors justement, que disent les sondages concernant le vote de tous ces jeunes?
Alors il n'existe pas beaucoup de sondages qui permettent de se faire une idée de leur intention de vote. Les deux sur lesquels j'ai pu mettre la main sont pour le moins contradictoires. Un premier sondage YouGov TNS portant sur les 16-24 ans montre que les jeunes sont plutôt favorables à l'indépendance. 50% auraient l'intention de voter oui, 36% non. Mais un autre sondage mené par des chercheurs de l'Université d'Édimbourg au mois de juin montre que la tranche spécifique des 16-17 est plutôt opposée à l'indépendance. 52% contre et 29% pour.
Alors c'est donc comment ils vont se faire leur opinion?
Selon un questionnaire distribué à un millier d'entre eux environ et analysé lors d'un débat télévisé à Glasgow, leur principale préoccupation tourne autour de leur quotidien, avec en numéro 1 la question des frais de scolarité qui explose en Grande-Bretagne. Ils se sont aussi montrés préoccupés par les questions économiques écossaises, la monnaie, ainsi que la gestion des affaires sociales.
Une chose est sûre, Eve, la question les passionne autant que leurs aînés.
Et pour ça, il n'y a qu'à voir la mobilisation sur les réseaux sociaux. Plus de 10 millions de références au référendum ces 5 dernières semaines sur Facebook, par exemple. Et cela s'accélère dans les derniers jours. Vidéos, slogans, les arguments s'affûtent et s'affrontent entre partisans du oui et du non merci. Aujourd'hui, veille du scrutin, la page du non, donc contre l'indépendance, recueille 200 000 j'aime. Un tiers de moins que celle consacrée au oui. Mais attention, cela ne veut pas dire grand-chose. Les partisans du oui étant plus actifs, mais pas forcément plus nombreux.
Et oui, on verra demain. Alors Eve, hein, finalement, si je comprends bien, les jeunes de 16 ans prennent leur rôle plutôt sérieux.
Oui, c'est plutôt un argument qui va relancer les réflexions en Europe autour de l'abaissement de l'âge légal pour voter, qui a déjà largement évolué en ce sens ces dernières années. En Allemagne, par exemple, 5 Länder ont déjà abaissé à 16 ans le droit de vote pour les élections locales, voire régionales. C'était en 1995. Même chose en Suisse. En France, le vote à 16 ans, au niveau local, refait régulièrement surface dans le débat politique, à droite comme à gauche.
Alors, certains pays autorisent carrément les plus jeunes électeurs à voter à toutes les élections.
C'est le cas de l'Autriche. Les ados autrichiens ont d'ailleurs été les seuls à participer à l'élection de leurs représentants européens cette année. Mais la Belgique pourrait aussi sauter le pas dans les mois qui viennent, preuve que cette démarche est dans l'air du temps.
Et pourquoi justement ce sujet refait surface maintenant à l'heure actuelle ?
Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, la politique et la démocratie sont un peu ringardisées aux yeux des jeunes par les scandales à répétition et la mauvaise conjoncture économique. En associant les plus jeunes aux choix cruciaux de leur pays, on peut créer les conditions d'un débat au sein des écoles, des lycées. Les gouvernements espèrent ainsi convaincre les jeunes européens qu'ils sont les premiers concernés par ce qui se décide maintenant pour poser les bases de leur vie civique de demain.
Merci Eve, à la semaine prochaine. Restez avec nous, on va parler d'un sujet qui vous intéresse forcément.
Au soleil.
Alors justement, une info pour vous aussi, Eve, sur le naturisme. Alors, est-ce que vous pratiquez le naturisme ?
Cette information est confidentielle, Catherine.
Bon, en tout cas, je vous le dis, un nudiste de tout poil, prière de vous rhabiller, ça vaut aussi pour vous, hein, Eve. La plage des dunes de Saint-Pétersbourg est fermée aux adeptes du naturisme. Les raisons officielles en sont plutôt ambiguës, Étienne Bouche.
Est-ce l'avènement de Saint-Pétersbourg la vertueuse ? En tout cas, plus question pour les adeptes du nudisme de dévoiler leur anatomie, ils sont condamnés à s'acheter un maillot de bain. C'est décidé, l'administration locale ferme la plage des Dunes, la plus ancienne plage naturiste de la ville. Elle existait depuis 50 ans. Officiellement, il ne s'agit que de réaménager cette plage en un véritable lieu de baignade. Elle ne serait pas aux normes actuelles. Les autorités disent vouloir la transformer en zone de repos pour tous. Seulement, cette décision est très mal accueillie par les nudistes, à commencer par Kirill Vassiliev, président de la Société de la culture du corps libre. Quelles infractions avons-nous commises ? Personne ne le sait. Nous n'avons nullement l'intention de partir. À Saint-Pétersbourg, les spéculations autour de cette fermeture vont bon train. Les habitués du lieu estiment que la décision est motivée par des raisons commerciales. On pourrait tirer quelques profits de l'aménagement de cette plage sauvage. De leur côté, des parlementaires locaux avancent un tout autre argument. Ils auraient reçu des plaintes de riverains. La présence de baigneurs nus à proximité de leur domicile les indisposerait. Dans le journal Niezavis Imaya Gazeta, les commentaires sont pour le moins ironiques, car selon Vassiliev, beaucoup de policiers, de procureurs et de députés fréquentent cette plage. Et c'est justement un député qui a particulièrement œuvré pour la disparition de cette plage, Vitali Milonov, celui-là même qui avait été le plus actif en faveur de la loi pénalisant la propagande des relations sexuelles non traditionnelles. C'est bien sûr l'homosexualité qui est visée. C'est de l'outrage aux bonnes mœurs, s'indigne le député. L'existence de cette plage était scandaleuse. J'avais reçu plusieurs plaintes de la part d'habitants et de visiteurs qui y étaient venus avec des enfants et avaient été choqués par ces pervers. Les autorités du district assurent que les nudistes pourront continuer à bronzer sans maillot, mais sur une autre plage, plus éloignée. Les habitués, eux, ne comptent pas quitter leur petit paradis sauvage qui avait résisté à la rigidité soviétique.
En Thrace, dans le nord-est de la Grèce, les minarets pointent vers le ciel depuis un demi-millénaire. Une communauté musulmane s'y est installée au fil du temps, pendant l'Empire ottoman. Et ces citoyens grecs ont conservé leur langue et leur religion. Considérés du coup comme des Turcs, ils forment une communauté discriminée en but au racisme et aux difficultés administratives. C'est un reportage de la série Détour de Grèce de Charlotte Stievenard et François Chevry.
Au café de Dimi, on regarde la télévision en turc. Dans ce village blanchi à la chaux et entouré de champs de tabac, les hommes et les femmes passent du temps en terrasse, mais séparément.
Ton café, il est turquico ou il est hellénico ?
Turquico.
Hussein Aren et ses amis sont unanimes. Ici, on ne boit pas de café grec. On boit du café turc, même s'il est préparé de la même façon. Mais en ce qui concerne la nationalité, Hussein est clair, il se considère comme grec.
On vit ici depuis l'époque de l'Empire ottoman, ça fait plus de 500 ans. On était installés jusque dans les Balkans, jusqu'en Autriche même. Les Ottomans sont partis en 1919 et c'est devenu la Grèce ici. On est grec. J'ai fait mon service militaire pendant 24 mois. S'il y a une guerre, on se battra aussi pour la Grèce. On n'a pas d'autre choix. On habite ici, c'est notre pays.
Tout le monde ne pense pas comme lui. Aujourd'hui, beaucoup se revendiquent comme minorité turque et non pas musulmane. Une situation un peu paradoxale puisque certains musulmans de cette minorité sont à l'origine slaves et tziganes. Ils ont appris le turc à l'école. Cette turquisation a été encouragée par les politiques nationalistes de la Turquie et excluantes de la Grèce. À partir de 1922, lorsque les deux pays ont expulsé la quasi-totalité de leurs minorités respectives vers le voisin, la Turquie a activement soutenu la minorité musulmane restée en Thrace. Elle finance des journaux, des écoles et des associations. En Grèce, ces musulmans ont longtemps été considérés comme des ennemis de l'intérieur. Jusqu'en 1995, ils vivaient enfermés dans une zone militarisée car proche de la frontière avec la Bulgarie communiste. Il leur fallait un permis pour sortir. Ils n'avaient pas le droit de construire ni d'acheter de maison sur leur propre territoire. Ils ne pouvaient pas passer le permis et ils n'avaient pas accès à l'université. C'est ce qu'a vécu Sevgi Hussein, assise sur le banc du village avec un groupe de filles. Après l'école primaire, elle est partie à Istanbul pour compléter son éducation.
Quand je suis partie en 1991, ils ne nous laissaient pas étudier en Grèce. Donc j'ai commencé à l'école secondaire en Turquie et j'ai continué à l'université. Après avoir fait 2 ans de master, je suis retournée en Grèce alors que je ne voulais pas.
Sevgi est rentrée en Grèce car elle y a trouvé un travail sur un coup de chance. Aujourd'hui sans emploi, elle s'occupe de sa mère malade. Ce n'est que dans les années 90, sous la pression de l'Union européenne, que la minorité musulmane a obtenu les mêmes droits que les chrétiens. L'imam Ahmed Mourat a enseigné à l'école du village il y a longtemps. Selon lui, la situation s'est beaucoup améliorée. Les écoles enseignent maintenant autant en grec qu'en turc, ce qui rapproche les jeunes de la société grecque.
Les enfants ne connaissaient pas le grec. Ils apprenaient le grec avec plus de difficultés. Maintenant, les enfants en parlent bien le grec, surtout les jeunes, puisqu'ils l'étudient.
Il y a maintenant des quotas de places réservées aux musulmans à l'université. Mais le niveau de l'enseignement est encore trop faible et décalé par rapport au système scolaire grec. Résultat, il n'y a pas assez de bacheliers pour les remplir. Pour la jeune femme Sevgi Hussein, il reste encore beaucoup à faire. Elle estime que les discriminations continuent, notamment en matière d'emploi, mais aussi en matière de religion. À Athènes, une grande mosquée doit être construite depuis des années. Cet été, le Conseil d'État a finalement donné le feu vert administratif, mais la construction pourrait encore traîner. Le métropolite orthodoxe du Pirée, Séraphim, et le parti néo-nazi Obdoré y sont toujours opposés.
Il a passé des années à prouver que les miracles n'étaient que de simples illusions, au point que dans son pays natal, l'Inde, Samal Edanaruku est devenu une star de la télé. Pourtant, son travail de mythbuster, de casseur de mythes, l'a forcé à quitter sa patrie. Aujourd'hui, il doit s'adapter à une vie radicalement différente, en Finlande, mais il continue de défendre le rationalisme. Pauline Curtet nous dresse le portrait de ce Finlandais d'adoption.
En Inde, il réunissait pour chacune de ses émissions de Mythbusters des millions de téléspectateurs. Pour Samal Edanaruku, le président de l'Association des rationalistes de l'Inde, habitué à sillonner les routes de son pays natal pour combattre les superstitions, aucun miracle n'était à l'abri. Il s'est d'ailleurs fait connaître en se soumettant pendant plusieurs heures au chant réputé mortel d'un fakir, le tout sans difficulté. Si ce défi réussi avait largement ébranlé ses téléspectateurs hindous, le rationaliste avait pu continuer à travailler sans être menacé. En fait, c'est en attaquant une autre religion, le catholicisme, pourtant très minoritaire dans le pays, qu'il rencontrera de vrais problèmes. En 2012, il démontre en direct qu'un liquide rouge, du sang d'après les fidèles, qui dégoulinait des pieds d'une statue de Jésus, n'était en fait que de la rouille. Inacceptable pour l'Église catholique indienne, qui a immédiatement menacé de le poursuivre en justice pour blasphème. Craignant d'être jeté en prison, Samal Edanaruku est parti pour le premier pays qui lui accordait un visa, ce fut la Finlande. À l'époque, cependant, il pensait y rester quelques semaines. Mais 2 ans après son départ, l'Église catholique indienne assure toujours qu'elle veut le poursuivre en justice. De son pays d'adoption, Samal Edanaruku poursuit sa vocation, si tant est que l'on puisse parler de vocation pour un athée. Fin 2013, il a lancé un magazine dédié à sa cause, appelé The Rationalist. Il cherche aussi à sensibiliser les Finlandais à sa situation. Cependant, s'il a eu droit à quelques articles racontant son histoire dans la presse locale, ses soutiens restent limités. Pour le moment, il ne s'est pas attaqué au démontage de mythes nordiques, mais le Père Noël, habitant bien connu de la Laponie finlandaise, n'a qu'à bien se tenir.
Accent d'Europe, c'est déjà fini à la réalisation Françoise Grelot. Vous pouvez évidemment nous réécouter sur le site RFI.fr ou sur notre page Facebook. Restez à l'écoute dans un instant, les infos.